question que je fais avec vous, le petit exposé que je fais avec vous aujourd'hui, porte justement sur un dossier tout à fait actuel. Moi, je pense que c'est un des grands débats qui va être lancé, qui a été déjà été lancé, on a pu savoir les journaux, même un peu acrimonieux, un peu caricatural. Évidemment, c'est le rôle de l'énergie dans le commerce canadien, qui a pris, pour diverses raisons, puis Stéphane l'a très bien résumé, on a, depuis les années 2006, quelque chose comme ça, ben, on a profité de la hausse du prix du pétrole pour, essentiellement, combler notre manque de dynamisme économique. Et donc, on a maintenu nos exportations, notamment vers les États-Unis, mais ça masquait quelque part des pertes de compétitivité de nos produits plus traditionnels, comme l'automobile, qui s'est plutôt déplacé vers le Mexique, des choses comme ça. C'était renforcé, évidemment, par des effets monétaires qui a rendu encore plus difficile. Mais globalement, c'est un peu ça. Mais là, on voit un petit peu l'inverse. Une fois que les prix tombent, quel défi? Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pensé la petite conférence aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est un peu ça. On est passé de M. Harper qui célèbre avec ses nouveaux partenaires chinois. Puis, évidemment, M. Trudeau qui s'amuse avec M.
DiCaprio.
tout le monde, j'ai hésité entre cette photo-là pour amuser les gens, ou celle où qui va dire qu'il y a le Canada n'est pas que des ressources naturelles. Ça, c'est ouais, mais il y a des jobs dans les ressources naturelles, qu'a dit à M. DiCaprio. Donc, il y avait comme deux boutades qu'on a retenues de du World Economic Forum. J'aurais pu prendre de la conférence de Paris. C'est un peu la même chose. Donc, c'est deux approches complètement différentes. Donc, c'est très contrasté, un peu au moins dans le discours. Entre M. Harper, qui avait fait la politique énergétique comme la pierre angulaire de sa politique économique, essentiellement, nous, on appelle ça la politique du tuyau, mais ça, c'est un peu en dérision, mais essentiellement, il y avait quelque part quelque chose de technique chez Harper en disant, ben, les prix, on a beaucoup de pétrole et les prix sont bons, pourquoi pas l'exporter? Donc, c'est pas un gouvernement, il faut simplement réagir aux fluctuations du marché. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fort chez les conservateurs en disant c'est une manière aussi de réaffirmer une espèce de rééquilibrage du système politique canadien en disant on va recentrer un peu le pouvoir économique et le pouvoir politique du Canada dans l'Ouest. On va aussi, quelque part, utiliser le pétrole, notamment avec le rapprochement avec la Chine, à des fins strictement partisanes. On parlait tout à l'heure de l'Ukraine, il y avait un peu ça dans l'approche de Monsieur Harper, quand il était celui qui criait le plus fort, mais qui avait le moins d'impact en termes de coûts. Mais il y avait un peu ça. Donc, le pétrole avait quelque chose de tout à fait magique. Monsieur Trudeau, comme Stéphane a dit, on n'a pas parlé beaucoup d'économie, puis on a encore moins parlé de l'éléphant dans la pièce, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'Alberta a pu une aussi grande rente, maintenant qu'on perd des emplois. Et pour ça, c'était... maintenant, on va tenir compte du réchauffement de la planète. Bon, je veux bien, j'ai rien contre ça, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Donc, moi, je pense que là, c'est encore un nouveau gouvernement, mais il y a quand même, on approche des 100 jours, puis on n'a à peu près pas vraiment de politique. Ce qu'on a eu dans les journaux hier ou avant-hier, c'était on va réouvrir les consultations, mais c'est pour gagner du temps. Hein, simplement pour dire qu'on n'a pas encore fait une trajectoire, qu'est-ce qui va arriver. On est un petit peu... Donc, on est dans un dossier tout à fait actuel, et je vais commencer comme tel. Donc, ça, c'est pas Bagwati. Ça, c'est moi qui l'ai fait.
Ah, bravo.
Non, mais ça ressemble à ton truc de Bagwati, là, sur les échanges. Essentiellement, c'est les grandes liaisons de flux commerciaux de pétrole, d'énergie, à travers le monde. Comme vous voyez, le Canada, c'est la petite flèche, mais c'est le chiffre qui est important, c'est 167 milliards qui fait que le Canada est quand même un immense producteur de pétrole, un immense exportateur de pétrole, le premier fournisseur de pétrole aux États-Unis. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est le Canada. Donc, il faut le dire. Évidemment, il y a un phénomène, comme je disais tout à l'heure, d'augmentation des cours, qui se produit globalement à partir des années 80, mais tranquillement, pas vite, ça va devenir très, très intéressant sous Paul Martin. Et quand le gouvernement Harper prend place en 2006, on est déjà dans une situation de très, très grande rentabilité en termes de potentiel. Et donc, les conservateurs vont simplement surfer sur une vague de prix élevés et profiter un peu de cette espèce de manne internationale. Là, évidemment, ça s'arrête en 2010. Vous savez que depuis ce temps-là, on est en chute libre en termes de prix. Évidemment, ça va avoir beaucoup d'impact sur la continuité. Bon, ça, c'est un peu des statistiques. Je vais faire très, très vite. Juste la ligne d'en haut, puis je ne les ferai pas tous. C'est simplement, comme je disais, le Canada, je ne sais pas si vous savez, mais on est les troisièmes réserves prouvées de pétrole du monde. Donc, c'est Venezuela, Arabie Saoudite, Canada. C'est énorme. Cinquième producteur actuel de pétrole. Ça aussi, c'est important. Et troisième exportateur global. Donc, on est dans le pétrole jusqu'au cou. On parle tout le temps du Koweït, tout ça. Notre production est beaucoup plus supérieure que ce qui se fait. D'une manière générale, ben là, on pourrait faire les autres détails, je pourrais le mettre au courant. Le pétrole, ça, c'est des données de 2014. Le secteur énergétique, c'est 10 % du PIB canadien. Ah, c'est phénoménal. Si on met ça avec les emplois indirects, SNC-Lavalin, les fournisseurs de camions et tout ça, on arrive à 14 % du PIB. C'est un secteur névralgique. Un peu dans le même esprit. En termes d'emploi, c'est moins significatif, mais généralement, c'est des emplois très bien payés comme tel. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme Stéphane a dit, on a utilisé grosso modo à peu près 30 % du pétrole extra-Canada pour la consommation interne. Le reste exporté essentiellement aux États-Unis, en quasi-totalité. Bon, là, tout ça est très, très beau. Bon, c'est d'autres statistiques, on va le faire. Vous suivez l'impact économique. Bien, ça, c'est peut-être intéressant. Il faut voir que, regardez la ligne rouge, les bâtonnets rouges. Ça, c'est le stock cumulé des investissements étrangers dans le secteur pétrolier. On est vendu à presque 700 milliards de dollars d'investissements majeurs. Ça a un impact sur le taux, l'équilibre macroéconomique de la balance commerciale canadienne, la balance des capitaux, mais aussi, évidemment, sur la montée de la force du dollar, où on a atteint la parité avec le dollar américain, mais voire plus. Et on le voit très, très bien sur cette chose. Bon, on va avancer parce que ça va me chicaner bientôt. Bon, pourquoi tout va mal d'abord? Donc, comme je vous dis, c'est parfait. C'est un peu la vision conservatrice il y a un an et demi. Hein. Ces données-là ne sont pas vieilles, donc on est exubérant il y a jusqu'à tout récemment. Premier problème, 2008. 2008, il se passe deux choses importantes dans l'économie mondiale. La crise des subprimes qui va mettre les banques à terre, et donc engendrer une espèce de récession générale. Mais surtout, pour nous, plus important, l'innovation qui est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique horizontale. C'est le mode de fracturation qui nous permet d'aller chercher des ressources qui étaient jusqu'à là inexploitables, essentiellement ce qu'on va appeler le gaz et le pétrole de schiste. Technologie-là, elle va être développée au début au Texas, mais c'est surtout dans les Dakota qu'on va trouver les principaux gisements. Puis ici, on avait même trouvé ici, près de Drummondville, on avait techniquement la technologie pour le faire éventuellement. C'est cette technologie-là que M. Couillard veut ou ne veut pas, ça dépend des jours, aller dans Ticosti. Ça serait techniquement cette technique-là qu'on peut aller horizontalement dans les couches sédimentaires. Bon. L'idée, c'est que les États-Unis, à cause de ça, vont devenir, ils sont actuellement ou à peu près autosuffisants en termes de production énergétique. Donc, le problème pour le Canada, notre seul client n'a plus besoin de nos produits. Point. Fondamentalement, c'est un peu ça. Et on en arrive à quoi? Bien, évidemment, en l'espace d'une décennie, l'Amérique du Nord est devenue le principal source ou principal lieu de production de pétrole dans le monde, en remplacement du Moyen-Orient. Là, j'inclus évidemment la production mexicaine aussi, puis il y a eu des réformes, j'en parlerai pas, j'ai pas le temps. On n'a pas privatisé Pemex, mais on a permis la participation privée dans l'exploitation du pétrole mexicain. Donc là aussi, il y a une augmentation fulgurante des exportations et de la recherche. Mais globalement, ça veut dire qu'on est saturé de pétrole en Amérique du Nord. Évidemment, ça nous aide à comprendre le débat aux États-Unis sur Keystone. Pour l'embouteillage, j'ai pris une caricature et on a trouvé le problème, c'est Obama. Mais c'est plus fondamental que ça. Obama, quand il est arrivé à la présidence, il n'était pas si opposé que ça à Keystone. le Congrès républicain est plutôt favorable. Beaucoup de gouverneurs des États producteurs sont favorables. Le débat n'est pas fini. Et maintenant, pourquoi à l'automne, il a dit « ben non, finalement, ça ne se fera pas ». Ben, c'est facile, c'est qu'il regarde les chiffres. On en a moins de besoin. Deuxièmement, ça nous permet, évidemment, de prendre question et quelque part, on peut se donner de bonne conscience en termes de positionnement partisan en disant « ben nous, on est pour l'environnement ». Et ça tombe bien, les milliers de puits de gaz de schiste, ça, ça pollue pas. Ça, c'est bon. Le gros méchant du Canada, lui, pollue beaucoup. Et donc, il y a un positionnement un peu hypocrite des démocrates sur ce dossier-là. Hein. C'est, ce qui est aux États-Unis pollue pas, mais ce qui vient d'ailleurs pollue. Là, alors, il faudrait lui demander à un moment donné. On a ça aussi, les bateaux qui viennent de pétrole dans le fleuve, ils polluent pas, puis ceux qui partiraient polluer. Hein. On a le même débat au Canada. Mais effectivement, puis l'autre problème, moi, je vous dirais, c'est effectivement, on en a moins de besoin. Et donc, une certaine saturation du marché américain. Bon. Jusqu'à maintenant, c'est une bonne idée. On n'a pas souffert des changements d'approvisionnement des États-Unis. C'est les autres producteurs qui ont perdu, c'est la ligne rouge. Comme vous voyez, la ligne verte, la ligne grise, c'est les exportations canadiennes de pétrole vers les États-Unis. Donc, notre part de marché se maintient. Et jusqu'à date, on n'a pas été exclu. Donc, c'est plutôt, est-ce qu'ils vont prendre l'excédent de production? C'est plutôt vers le futur, plutôt que ce qui est vendu et quelque part assimilé dans le débat. Bon. L'autre problème qu'on a, et là, c'est plus politique qu'intentionnel, c'est la guerre du pétrole qui a été lancée par l'Arabie saoudite, qui, avec un coup de revolver, vise trois canards. Bon, premièrement, c'est un peu ça, on veut punir les producteurs exotiques de gaz de schiste, de sable bitumineux qui, quelque part, font baisser les prix, leur prend des parts de marché, donc on veut les acculer à la faillite. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le deuxième, on veut punir la Russie parce qu'ils s'amusent en Syrie. Et troisièmement, on veut punir l'Iran ou les États-Unis qui viennent d'avoir un accord sur le nucléaire. Et donc, il y a aussi de la géopolitique locale dans la décision de l'Arabie saoudite d'utiliser l'arme du pétrole en faisant simplement casser les prix, en maintenant, voire en augmentant leur production. Et là, actuellement, pourquoi c'est si bas? C'est que maintenant, avec l'accord nucléaire iranien, l'Iran va avoir des levées de ses sanctions et donc va pouvoir augmenter massivement ses exportations de pétrole. M. Poutine, en réaction à la baisse des prix, a augmenté aussi ses livraisons. Donc, on en arrive à une suroffre globale qui fait casser les prix partout. Bon. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les prix tombent. Globalement, donc la surévaluation du pétrole qu'on a connu de 2006 à 2014, ben, c'est fini. Et le problème, c'est que le Canada, comme on n'est pas capable de sortir le pétrole des provinces des Prairies, Saskatchewan, Alberta principalement, mais un peu aussi en Colombie-Britannique, il fait qu'actuellement, le pétrole canadien, non seulement il est plus cher à sortir de la terre, le prix de vente est généralement 10 $ de moins que les cours du WTI, là, qui est l'indice de référence en Amérique du Nord. Donc, grosso modo, là, ça dépend de votre compagnie, ça dépend de votre technique. Si vous êtes vraiment très, très, très loin, Fort Murray ou plus au sud, ça coûte grosso modo 30 à 35 $ le baril US pour produire un baril au Canada. Ben, c'est à peu près les cours qu'on a aujourd'hui. Et là-dessus, ça, c'est le WTI, ça veut dire que nous, on reçoit 20. Actuellement, les compagnies de pétrole canadiennes perdent 10 $ par baril. Grosso modo, actuellement. Oui. Je vais sauter. Puis là, on l'a vu, c'était la petite courbe. Comme vous voyez, évidemment, la partie sombre, là, c'est le gaz du pétrole lourd, là, ce qu'on appelle l'huile synthétique ou le pétrole synthétique. C'est essentiellement ce qu'on produit, c'est celui qui coûte le plus cher, mais qu'on a le plus en grande abondance. Bon, ça, c'est des affaires qui sont pas importantes. Ça, politique de suivre. Et évidemment, le grand problème maintenant économique qu'on a, c'est que si les Américains à qui on vend tout notre pétrole n'en veulent plus, il faut trouver d'autres acheteurs. Et donc, on va le penser à ces abondés. Il y a la Chine, l'Inde, les pays asiatiques qui sont en émergence. Et la principale demande à long terme du pétrole va être essentiellement en provenance des pays émergents. Pour ne pas dire le Moyen-Orient, essentiellement l'Inde, la Chine, ce coin-là. Et donc, le plus important, évidemment, c'est Keystone. Il vient d'être bloqué. Celui qui va normalement ravitailler l'Asie, qu'on a quelque part entériné quand on a accepté que la Sinuk, la société d'État chinoise, finalement acquiert Nexen, qui est le 8e producteur canadien, bien, c'était ça le deal. Hein. Vous achetez le pétrole, vous le mettez dans le nouvel éléoduc qu'on va construire, et ça s'en va en Chine. Bien, tout est beau. Mais c'était le petit drink qu'on prenait tantôt avec Harper et ses représentants. Le problème, c'est que c'est bloqué par la Colombie-Britannique, parce que ça passerait dans des territoires indiens, l'acceptation sociale est nulle. En plus, il y a des ours blancs spécifiques, je ne sais pas quoi. Ça ne passe pas. Donc, la troisième option, la moins intéressante d'un point de vue des producteurs, c'est le pipeline ici. Donc, énergie S, parce que si vous êtes bon en géographie, la Chine, c'est bobard. Mais l'idée, c'était quelque part, on pourrait ravitailler l'Europe parce que les réserves de la mer du Nord s'épuisent. Et donc, on pourrait quelque part développer le marché européen, un marché qui serait plutôt exotique d'un point de vue. Mais mieux vaut avoir un marché exotique que pas de marché du tout. Hein. Et donc, c'est un peu la gageure du Keystone Excel. Et évidemment, on est là-dedans depuis 2 semaines. Bon. On est dans un débat plutôt émotif. Il faut savoir qu'un éléoduc, dans un kilomètre, transporte autant de pétrole que 15 000 camions de citernes. Et qu'il y a eu combien d'accidents, en passant, importants des déversements de pétrole dans tous les oléoducs canadiens l'année passée?
Dans le passé ou l'année passée?
L'année passée, dans un an, l'année passée. Il y a eu 122 déversements, 4 qu'on a considérés importants. Et si on additionne tout le pétrole déversé, ça équivaut à un demi-camion-citerne. Et donc, c'est très sécure. Hein? Ça n'a rien à voir avec le mégantique où ça explose, là.
C'est ça,
il y a plus d'huile répandue par ceux qui s'amusent à essayer de faire des changements d'huile à la maison du Canada que ce qu'on a eu. Mais on est dans un peu l'émotivité. On a vu dans le pas dans ma cour, sa prochaine photo. Ici, j'ai pris une qui vient exactement de la série de la journée qui a fait sa déclaration sur le pétrole. À un moment donné, tu dis, est-ce que c'est le maire de Pintendre ou de Sainte-Thérèse qui doit faire la politique énergétique et voir, dans ce cas-ci, la politique économique canadienne, voir la politique commerciale? Parce que 30% de l'exportation, c'est du pétrole. Et donc, il y a un déséquilibre. Un peu comme parlait un peu Stéphane, à un moment donné, c'est bien beau l'acceptation sociale. Bien, c'est sûr que moi, je ne veux pas d'autoroute dans ma cour. Mais je suis très content qu'il y ait une autoroute pour venir à la conférence. Il y a un peu de ça. On est toujours pris entre, c'est bien beau penser local, mais à un moment donné, il faut avoir un pilote dans l'avion. Et je crois que c'est un peu le débat qu'on a. C'est un peu le défi de M. Trudeau d'assez rapidement de donner une direction claire. Et donc, ça m'arrive aux conclusions finales, qui serait grosso modo 5 problèmes qu'on a, qui opposent les effets de reprimarisation économique. Et donc, c'est effectivement une rente. On est gâtés, on est un pays gigantesque avec beaucoup de ressources. Mais à un moment donné, ça nous rend paresseux. Hein, on se fie qu'on va vendre du pétrole pas cher, puis on va avoir des gros salaires, puis ça va payer nos écoles, puis nos routes, puis les hôpitaux, puis tout ce que vous voulez. On est un peu là-dedans. On a une espèce de pensée un peu magique, dans le sens qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers. Ça nous a donné un risque de mal hollandais. Qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'en augmentant la parité du dollar canadien au dollar américain, mais notre secteur manufacturier a été détruit pendant 10 ans. Là, on se dit... Puis, tantôt, Stéphane en parlait, ben il dit, ben oui, nos exportations ne reprennent pas malgré la faiblesse du dollar. Mais une fois que tu es mort, tu ne réexportes pas le lendemain. Hein? Il y a un gap, il y a les coûts de, justement, de maintenir compétitif avec l'équipement. Donc, il y a un piège. Est-ce qu'on continue à dire, on veut une rente et être un peu, en guillemets, dilettante? C'est un des premiers aspects. Là, je viens de le dire aussi... L'idée, c'est qu'on n'est pas capable de relancer l'économie après la surboom du pétrole. Mais aussi, il y a un débat sur le fédéralisme canadien, essentiellement sur le partage de la rente. On le veut avec M. Wall. Et on dit, vous devez accepter le truc parce que vous recevez de la péréquation. À quelque part, c'est un peu ça. Et pourquoi les Albertains sont plus riches? Parce qu'ils ont du pétrole. Donc, il y a un équilibre. Je me reste deux petits minutes. Puis finalement, il y a l'histoire de la politique étrangère. Ce que je sache, M. Trudeau, il a parlé de la Syrie, mais il ne veut pas en parler. Les États-Unis, il a parlé du TTP, qui a dit, je vais le signer, je vais le lire après. Ça ne marche pas. Mais il n'a surtout pas parlé de la politique canadienne vis-à-vis de l'Asie. On n'y a pas dit un mot à date sur la Chine, sur l'Inde. Qu'est-ce que doit être un peu cette nouvelle relation-là? M. Harper, on le savait, c'est on va être fournisseur de matières premières. Mais là, y a-t-il autre chose? C'est quoi le TTP pour eux, ça? C'est, on va lire ce qui a été négocié, puis on verra. C'est pas fort. Évidemment, moi, je pense que cette question du pétrole, c'est le gros test de crédibilité en termes de politique économique du nouveau gouvernement qui vient d'arriver. Donc, ça va dominer les deux, trois premières années du mandat, certainement. Je vous remercie là-dessus, puis je répondrai à une question.